Imaginez que vous soyez un employé de maison chez une grande famille bourgeoise au 19e siècle. Il y a souvent des invités dans cette demeure et comme d'habitude, on vous présente toujours très cordialement aux convives comme étant un des serviteurs de la maison. Voilà, je vous présente Judson, un des serviteurs de la maison. Ça vous fait quel effet ? Ça vous plaît ? Imaginez maintenant que vous soyez un membre de notre église depuis de nombreuses années, d'accord ? Et il y a souvent des nouveaux venus le dimanche au culte, et comme d'habitude, le pasteur vous présente très cordialement aux visiteurs comme étant un des serviteurs de la maison. Judson, un des serviteurs de notre église. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous dirait d'être présenté comme ça ? Et si je vous disais ce soir que si vous vouliez exercer une fonction officielle dans l'église, vous avez le choix entre surveillant et serviteur. Qu'est-ce que vous préférez ? Surveillant ou serviteur ? Ben dans ce chapitre, dans ce troisième chapitre de la première lettre de Paul à Timothée, Paul est en train d'expliquer à Timothée, et par conséquent à l'église de Timothée, et par conséquent à nous aussi, hein, par extension, quelles sont les qualifications requises pour exercer ces deux fonctions, serviteur ou surveillant, ou surveillant ou serviteur. Ces deux fonctions qui sont explicitement mentionnées, en tout cas, comme étant les deux fonctions officielles dans l'église. Dans ma traduction de la Bible, ces deux fonctions ont pour nom, non pas serviteur et surveillant, mais pour surveillant évêque, pour serviteur diacre, et dans votre traduction c'est peut-être différent, peut-être à la place d'évêque vous avez surveillant ou conducteur berger peut-être, et peut-être que vous avez serviteur à la place de diacre dans votre traduction, mais peu importe. En grec, ces deux mots signifient bel et bien, pour évêque, surveillant, et pour diacre, serviteur. Ça, c'est le sens original des mots en grec. Il y a deux semaines, on a vu que ce terme de surveillant ou d'évêque désignait des hommes dans l'Église qui sont, dans d'autres passages, appelés par d'autres noms, comme anciens. Anciens, c'est probablement le nom le plus courant qu'on emploie pour désigner ces hommes-là, et dont la fonction consiste à enseigner et à diriger les communautés chrétiennes locales. Ça, on l'a vu il y a deux semaines, si vous n'étiez pas là, vous pouvez toujours écouter le message sur le site internet. Mais maintenant, Paul en vient à parler d'une autre fonction dans l'Église, vous l'avez compris, celle de diacre. Celle de diacre. On va voir dans un moment de quoi il s'agit exactement. Mais a priori, évidemment, on se dit que serviteur, c'est une fonction inférieure à surveillant. Le serviteur, d'habitude, c'est pas le gars qui impose le respect et l'admiration dans notre mentalité, n'est-ce pas ? C'est plutôt celui sur qui on s'essuie les pieds. Il paraît que les gérants d'hôtels à l'étranger redoutent plus que tout les réservations faites par des Français, parce qu'il paraît que les Français ont la réputation d'être arrogants, exigeants et râleurs. Et vous voyez, pour les Français, les serviteurs, ce sont des gens qui doivent se plier à nos moindres caprices. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être qu'en tant qu'étranger, vous avez constaté la même chose. Je ne sais pas. Alors, serviteur, vous voyez, dans notre mentalité, dans notre société, serviteur, ce n'est pas du tout une fonction désirable. Qui c'est qui a envie d'être appelé serviteur ? Mais dans le texte qu'on va lire, c'est exactement le contraire. Paul veut redorer le blason de la fonction de diacre, parce qu'on a peut-être tendance à penser que les diacres dans l'Église, ce sont des gens qui ne sont pas assez forts pour être des évêques. Vous voyez, c'est une catégorie en dessous, ils jouent dans la deuxième division, d'accord ? On a l'OL qui joue, vous voyez, ça c'est les évêques, et puis les diacres, c'est Arles-Avignon, vous voyez, qui vont se prendre une... bon, bref. Alors, ils jouent... où est-ce que j'en étais ? Oui, voilà. En réalité, concernant les diacres, comme on va le voir ce soir, et peut-être que le résultat du match ne va pas du tout me donner raison, comme on va le voir ce soir, la fonction d'ancien et la fonction de diacre dans l'Église, en réalité, sont égales en dignité. Elles sont égales en dignité. En fait, la fonction de diacre ne doit pas du tout être dénigrée, parce que c'est une fonction éminente dans l'Église. C'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, lisons le texte. 1 Timothée 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. J'avais dit qu'on allait étudier cet épître en petits morceaux, parce que c'est très très dense tout ce qu'on y trouve. Verset 8 à 13, chapitre 3. Les diacres, ou dans d'autres traductions les serviteurs, pareillement doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux. Qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve, et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. On va s'arrêter là pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour l'immense privilège que nous avons de pouvoir étudier ta parole librement. Merci parce qu'à travers elle, tu te fais connaître à nous. Tu nous instruis, tu nous montres de quelle façon tu comptes être aimé et servi. Alors Seigneur, permets que maintenant, à travers la prédication de ta parole, eh bien, toi-même tu nous édifies par l'action de ton Saint-Esprit et au nom de Jésus. Amen. La première information qu'on peut glaner de ce texte, c'est que le diacre est important dans son Église. Le diacre est important dans son Église. Au verset 8, Paul utilise une locution très importante, c'est le mot « pareillement ». Pareillement. Dans d'autres traductions, vous avez peut-être « de même ». Et cette locution, pourquoi Paul est-il en train de l'utiliser et vers quoi est-il en train de nous renvoyer? Eh bien, au début du chapitre 3, où Paul introduit la question des fonctions dans l'Église, Paul a dit que la fonction d'ancien, d'évêque, était une belle activité. Il avait même dit que cette parole était certaine. Et ensuite, il a dit « donc ». Il faut que l'évêque soit irréprochable, etc. Et un peu plus loin dans son texte, dans sa lettre, il dit « pareillement, les diacres doivent, etc., etc., etc. » En fait, avec cette locution de « pareillement », il est en train de nous renvoyer au premier verset où il a dit qu'évêque était une fonction désirable, une belle activité, une œuvre excellente. Et il est en train d'appliquer cette même expression indirectement à la fonction de diacre. Et ensuite, les premières qualifications qui sont mentionnées au verset 8 viennent confirmer l'importance des diacres parce que, vous l'avez peut-être remarqué, ce sont des qualités qui sont propres à leur fonction de diacre. Ils doivent être respectables, dit-il, ça veut dire honnête, sérieux, honorable, digne. Et ensuite, il développe cela en disant que ça veut dire qu'il faut être sobre, désintéressé, etc. Et en fait, c'est très cohérent quand on considère ce que c'est qu'un diacre. Et peut-être que vous ne savez pas ce soir ce que c'est qu'un diacre. Peut-être qu'on est de nombreux à se dire diacre, bien sûr, on sait ce que c'est, puis peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est que diacre. Les premiers diacres de l'histoire de l'Église, on les découvre dans le livre des Actes, chapitre 6, et ils avaient pour mission, pour fonction, de venir en aide aux veuves dans l'Église. D'accord ? Il y avait des femmes qui étaient veuves, et le rôle des diacres, c'était de leur venir en aide. Et c'est pourquoi, par extension, on dit aujourd'hui que le travail des diacres dans l'Église, globalement, c'est un service matériel. Vous vous souvenez ce que c'était le travail des anciens? Les anciens doivent diriger et enseigner l'Église. Les diacres, quant à eux, exercent un service matériel dans l'Église. Tout particulièrement, ils viennent en aide aux nécessiteux. Ils viennent au secours matériellement des nécessiteux. Et donc, ils doivent être caractérisés par certaines qualités propres à l'exercice de cette fonction. Parce que les diacres, pour Paul, en tant que diacres, parce qu'ils occupent cette fonction, ils sont importants dans les églises locales. On a quand même du mal aujourd'hui à ne pas considérer cette fonction comme étant une fonction inférieure, de second ordre dans l'Église. Dans l'Église catholique, par exemple, il y a 3 degrés dans le sacerdoce. 3 degrés. Le degré le plus élevé, pour les catholiques, c'est évêque. Le degré le moins élevé, c'est diacre. Et dans l'Église catholique, on ne peut pas être ni prêtre ni évêque sans d'abord avoir été diacre pendant un certain temps. Vous voyez, ce sont des échelons qu'on gravit. Mais dans ce texte, moi j'ai plutôt l'impression que Paul met les fonctions d'évêque et de diacre côte à côte. Certes, il ne s'agit pas de la même chose. Certes, il y a un rapport d'autorité qui s'exerce entre les uns et les autres. L'autorité exercée dans l'Église est confiée aux anciens et pas aux diacres. Mais les deux, quand même, sont également importants dans l'Église. Les deux sont égaux en dignité, comme fonction dans l'Église. Pour illustrer ce point, on peut songer aux différentes fonctions exercées conjointement dans la plupart des restaurants. Vous vous souvenez de ce jeune homme qui a mangé avec son papa dans un fast-food près d'Avignon, une histoire un peu tragique, et qui est décédé quelques heures plus tard à cause d'une intoxication alimentaire fulgurante. Vous vous rappelez de cette histoire ? L'enquête a révélé la présence de staphylocoques dorés dans le liquide gastrique du jeune homme, mais aussi sur le sol de la cuisine du restaurant et sur plusieurs des employés. Moi, j'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux lorsque vous allez au restaurant ? La qualité gustative du sandwich ou l'hygiène de la cuisine? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? On choisit souvent un restaurant pour le goût de ce qu'on y mange, n'est-ce pas? Mais le travail des hommes et des femmes qui font le ménage, est-ce qu'il n'est pas tout aussi essentiel, voire peut-être plus important, pour notre santé du moins? Si Paul avait écrit une épître à Quick, il aurait peut-être écrit ce qui suit. Si quelqu'un aspire à préparer des sandwichs, il désire une belle activité. Il faut donc que le préparateur de sandwich ait bon goût, qu'il sache respecter les recettes et qu'il soit rapide. Ceux qui font le ménage, pareillement, doivent être assidus et scrupuleux. Est-ce que vous avez l'impression, là, qu'il y a une des deux fonctions qui est plus importante que l'autre? Pas moi. Moi, je crois qu'on a tendance à dénigrer la fonction des diacres dans l'Église parce qu'on a tendance à dénigrer ce qui est matériel au profit de ce qui est spirituel. C'est notre culture évangélique, ça, n'est-ce pas? On dénigre le matériel au profit de ce qui est spirituel. En réalité, il n'y a pas de dichotomie dans la Bible entre le matériel et le spirituel. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dieu s'est toujours préoccupé des besoins, non seulement spirituels des hommes, mais aussi de leurs besoins matériels, de leurs besoins physiques. Notre corps, par exemple, notre corps compte pour Dieu. Notre santé compte pour Dieu. Notre intégrité physique, notre sécurité compte pour Dieu. Dieu lui-même, d'ailleurs, pour apporter une solution à nos besoins, des besoins de toute nature, s'est fait homme. Il a revêtu un corps en Jésus. Il s'est incarné, il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un fantôme, il a envoyé son propre fils dans la chair, avec un corps. Et puis, vous le savez, Dieu a aussi ressuscité Jésus avec un corps. Il ne l'a pas juste ressuscité en esprit, il l'a ressuscité avec un corps comme prémisse, nous dit Paul, de la résurrection de la chair qui constitue l'objet même de l'espérance chrétienne. Vous voyez qu'il n'y a pas de dichotomie dans la Bible entre la matière et le matériel et le spirituel. Les deux comptent pour Dieu. Ce qui est matériel compte pour Dieu. Il se préoccupe de tous nos besoins sans exception. Et dans l'Église, vous voyez, ce sont les diacres qui ont pour fonction de secourir matériellement les nécessiteux et plus largement, plus globalement, d'exercer un service d'ordre matériel. Vous savez, à force de dénigrer cette fonction dans l'Église, on se retrouve à avoir des diacres bouche-trou. Vous voyez ? Ce sont des gens parfois démotivés, les pauvres, parce qu'on ne tient pas leur fonction en estime. Ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes et parfois des gens qui ne sont pas qualifiés, d'après Paul en tout cas, pour exercer cette fonction. C'était le même problème qu'on avait constaté avec la fonction d'ancien dans les églises, n'est-ce pas, il y a 2 semaines. Le diacre, vous savez, enfin, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas fait le même constat que moi, mais moi j'ai l'impression, avec les quelques diacres que je connais, que souvent le diacre, c'est le mec bricoleur, vous voyez, il sait faire 2-3 trucs, il sait manipuler quelques outils, il est un peu rustre, parfois un peu simple. C'est le gars à qui on a confié ce rôle de façon un peu condescendante pour lui faire plaisir. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté la même chose. Mais ce n'est pas du tout là la vision que Paul a des diacres, pas du tout. Et on va le voir d'ailleurs dans la suite du passage. Effectivement, la deuxième chose qu'on peut glaner de ce texte, c'est que le diacre, selon Paul, il est censé être solide dans sa piété. Il est important dans son église, d'accord ? Et il est deuxièmement solide dans sa piété. Vous voyez ce qu'il dit au verset 9 et 10. Les diacres doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une solide connaissance de la doctrine chrétienne et un solide comportement de chrétien. Une solide connaissance de la doctrine chrétienne et un solide comportement de chrétien. Paul en ajoute une couche en termes d'exigence quand il dit juste après qu'il faut tester la solidité du diacre potentiel avant que celui-ci devienne officiellement diacre. Vous avez vu hein, ce qu'il dit au verset 10, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Il faut observer le candidat, l'aspirant diacre, il faut l'observer pendant un certain temps et voir comment il se débrouille, notamment lorsque surviennent les difficultés. Est-ce qu'il va compromettre la vérité chrétienne? Est-ce qu'il va faire des écarts de conduite? On va regarder pour voir comment il s'en sort, comment il se débrouille. En pensant à ces exigences que Paul impose aux diacres, qui peuvent paraître assez dures, hein, assez imposantes, moi je ne peux pas m'empêcher de penser aux divers métiers de service qui existent dans l'hôtellerie et dans la restauration de luxe. Si vous avez déjà été dans un grand restaurant ou dans un hôtel 4 étoiles, si vous avez déjà eu la chance d'y aller, Vous savez bien que pour gagner le droit d'y travailler en tant que serveur ou en tant que concierge dans un hôtel 4 étoiles, il faut passer une formation, il faut subir une formation très, très minutieuse. C'est long, c'est exigeant, ça coûte cher. Et il faut accumuler de l'expérience avant de pouvoir postuler un travail au Ritz ou au Phuket à Paris, vous voyez ? C'est pas un travail que n'importe qui peut faire, n'importe quand et n'importe comment. C'est exigeant. En surface, on peut avoir l'impression que c'est un travail facile à faire, on se dit, mais bon, tout le monde peut le faire, mais en réalité, c'est un travail très exigeant. Et bien, c'est un peu la même chose avec la fonction de diacre ou de serviteur, entre guillemets, dans l'Église. Ce n'est pas une fonction que n'importe qui peut exercer, n'importe quand et n'importe comment. Les diacres doivent être solides dans leur piété, comme Paul le dit, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Il est intéressant de remarquer que Paul ne dit pas que les diacres doivent être aptes à l'enseignement, comme il l'a dit pour les anciens, quelques versets plus haut, vous vous souvenez ? Mais en même temps, sans devoir être aptes à enseigner la doctrine chrétienne, en même temps, les diacres doivent bien être droits dans leurs bottes, en termes de doctrine et de conduite. On voit que pour Paul, la bonne doctrine et la bonne conduite sont les ingrédients essentiels de la foi chrétienne, de la piété chrétienne. On avait déjà vu cette idée chez Paul d'ailleurs au premier chapitre, vous vous souvenez, lorsqu'il avait encouragé Timothée à combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. On retrouve ce même binôme, cette même paire d'éléments, la foi et la conscience. On avait parlé alors, il y a plusieurs semaines maintenant, on avait parlé de l'importance pour tout chrétien de maintenir côte à côte la pureté de la doctrine et l'intégrité morale, l'orthodoxie et l'orthopraxie, le bien croire et le bien faire. Et comme on le voit bien, ces ingrédients ne sont l'apanage ni de Timothée, ni de Paul, ni des anciens, ni des diacres, ce sont bien les ingrédients normaux et essentiels de la vie de tout chrétien. Pureté de doctrine et intégrité morale. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez dans l'Église, diacre ou pas, ancien ou pas, pasteur ou pas, le mystère de la foi est important pour vous, tout comme l'état de votre conscience. Est-ce que, alors, vous entretenez, dans votre piété personnelle, une bonne connaissance des vérités bibliques, ou bien est-ce que vous avez tendance à délaisser ce domaine, cette dimension de votre foi, pour vous concentrer plutôt sur des expériences ou sur des spéculations personnelles ? Est-ce que vous examinez votre conduite à la lumière des enseignements objectifs de la Bible, ou bien est-ce que vous craignez que Dieu jette sa lumière justement sur telle ou telle situation de votre vie et qu'il éveille ainsi votre conscience à des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté ? Ça, ce sont des questions que tout chrétien doit se poser, pas que les diacres, pas que les anciens. La suite du passage d'ailleurs va le confirmer. On passe au troisième point. La troisième chose qu'on peut glaner de ce texte, c'est que le diacre est censé être exemplaire dans sa conduite. Vous vous souvenez, on avait également relevé ce point pour les anciens. Les diacres, comme les anciens, sont censés être des modèles pour l'Église. Mais contrairement aux anciens, cette exigence ne relève pas particulièrement de la nature de la fonction de diacre, mais seulement du fait qu'ils ont une fonction dans l'Église. Je vais essayer d'expliquer ce point. Les anciens, vous voyez, sont censés être des experts en vie chrétienne, chargés d'enseigner et de conduire la communauté. Les anciens, donc, doivent, par l'exemple de leur vie notamment, montrer aux autres le chemin de la piété. C'est la nature de leur fonction, c'est ce qui caractérise leur rôle, c'est leur mission de conduire et d'enseigner les autres chrétiens. Mais ça, ce n'est pas du tout la fonction de diacre, ce n'est pas la nature de la fonction de diacre, ça. Les diacres, on l'a dit, ils sont chargés essentiellement d'exercer un service matériel dans l'Église. Mais du simple fait qu'ils exercent une fonction officielle, qu'ils ont une étiquette, si vous voulez, ou un badge, ou une casquette, ou un uniforme, enfin peu importe, du simple fait qu'ils exercent une fonction officielle dans l'Église, ils doivent être exemplaires dans leur conduite. Alors au verset 11, il y a un débat qui existe concernant ce verset, vous pouvez y jeter un coup d'œil, pour savoir s'il faut comprendre le mot « femme » dans ce verset comme désignant les femmes des diacres ou bien les femmes diacres. Les femmes des diacres ou les femmes diacres. Autrement dit, les diaconesses, les diacres-femmes. Il me semble que Paul est en train de parler de femmes diacres dans ce passage, mais je concède qu'il s'agit d'un débat qui n'est pas clos. À mon avis, Paul est en train de parler de femme diacre, de diaconesse, donc pour trois raisons. D'abord, il y a l'emploi de cette fameuse locution, encore une fois, qu'on voit apparaître ici, de même, ou pareillement, qui laisse penser que Paul est toujours en train de songer aux fonctions officielles dans l'Église. Deuxième raison, cette remarque s'inscrit dans une section où Paul est en train de parler clairement des diacres, et d'ailleurs, il n'a pas fini d'en parler, mais ici, il glisse une parenthèse, une exigence, propre aux femmes au verset 11, et puis propre aux hommes au verset 12, vous avez vu? Et puis troisièmement, Paul n'a rien dit concernant les femmes des anciens dans le passage qui a précédé. Et pourtant, il a bien dit que les anciens étaient censés être maris d'une seule femme, donc ce n'est pas pour dire que les anciens n'avaient pas de femmes. Alors, quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir un avis différent sur la question, mais quoi qu'il en soit, on peut au moins retenir l'idée que les hommes diacres ainsi que leurs femmes, ou bien les hommes diacres ainsi que les femmes diacres, sont censés être exemplaires dans leur conduite. Les femmes sont censées être exemplaires pour Paul en étant, dit-il, respectables, elles aussi, c'est-à-dire honorables, dignes, sérieuses, des personnes sérieuses. Et aussi, elles sont censées être tout l'inverse de ce qui sera reproché un peu plus tard dans l'Épître à d'autres femmes dans l'église de Timothée, des femmes qui bavardaient, qui répandaient des histoires sur les autres, enfin, vous voyez. Alors, il faut qu'elles fassent l'inverse, qu'elles soient non médisantes, et sobre et fidèle en toutes choses. Et puis les hommes, quant à eux, sont censés être exemplaires en étant des chefs de foyer dévoués à leurs femmes et à leurs enfants. Encore une fois, je répète, cette exigence n'est pas placée sur les diacres comme si c'était leur responsabilité d'enseigner et de conduire l'Église. Ce n'est pas leur responsabilité, c'est celle des anciens. Mais elle est placée sur eux, cette exigence, simplement parce qu'ils occupent une fonction officielle dans l'Église. Ils ont des responsabilités, on l'a dit, d'ordre matériel, et de ce fait, ils sont visibles, on les observe, ils se font remarquer, leur comportement en dit long sur leur caractère. Et c'est pour cette raison que la qualité numéro 1 mentionnée par Paul, en ce qui concerne les diacres, c'est la respectabilité. Vous avez vu ça, verset 8, mais il le dit aussi concernant les femmes, verset 11, que les femmes d'eux-mêmes soient respectables. Pourquoi faut-il être respectable ? Si notre seul travail, c'est un service matériel, c'est quoi le rapport? Eh bien, il faut que ces personnes soient dignes d'être prises au sérieux. Sans quoi, c'est justement leur fonction qui ne sera pas tenue en estime, qui sera dénigrée, qui sera décrédibilisée, et en fin de compte, qui ne portera pas de fruits dans la vie de l'Église. Donc vous voyez, l'enjeu est quand même important. Vous vous souvenez de l'affaire Lewinsky? L'affaire Lewinsky, Bill Clinton, etc. Un ancien président des États-Unis, Bill Clinton, a eu cette fameuse liaison avec une employée de la Maison-Blanche. Vous vous rappelez cette histoire peu glorieuse. Beaucoup de gens à l'époque ont voulu défendre Bill Clinton en disant « Et alors ? C'est sa vie privée. S'il veut tromper sa femme, ça le concerne, ça n'a rien à voir avec son travail de président. Alors laissez-le tranquille. » Mais c'est pas comme ça que la population en fait a vu les choses. D'après une étude réalisée par l'université de Princeton, l'affaire Lewinsky, c'est ce qui a fait perdre les démocrates lors des élections qui ont suivi. Et le critère, d'après cette étude, le critère qui par conséquent a pesé le plus lourd dans l'élection de George Bush, qui a été le successeur de Bill Clinton, le critère qui a pesé le plus lourd, ça a été, je cite, le critère de l'intégrité morale du candidat. Vous voyez bien qu'une fonction officielle doit être tenue en toute dignité, sans quoi c'est la fonction elle-même qui en souffre, n'est-ce pas? C'est la fonction elle-même qui est décrédibilisée et qui ne sert plus à rien, qui devient infructueuse. Rappelez-vous dans Actes chapitre 6, lorsque les apôtres ont dit à la multitude de disciples de nommer des diacres, ils leur ont dit de choisir des personnes qui, je cite, « recevaient un bon témoignage rempli de l'esprit et de sagesse ». Des gens qui reçoivent un bon témoignage, qui sont remplis de l'esprit et de sagesse. Ça alors, pour quel travail est-ce qu'on va les à quel travail on va les destiner ces gens-là, remplis de l'esprit et de sagesse, qui reçoivent un bon témoignage? Le texte dit, leur travail, servir aux tables. Ah bon, c'est si difficile que ça de servir aux tables, qu'il faut recevoir un bon témoignage, être rempli de l'esprit et de sagesse? Ben d'après les apôtres, oui. Ce n'est pas la nature de la fonction qui entraîne ces exigences, c'est le fait même que ce soit une fonction dans l'Église. Comme je l'ai dit au sujet des anciens il y a deux semaines, vous vous dites peut-être en ce moment, bon, tout ça c'est bien beau, c'est bien intéressant, mais en quoi ça me concerne? En quoi ça vous concerne? En fait, ça vous concerne pour trois raisons. Tout d'abord parce que vous soyez un homme ou une femme, peut-être que Dieu vous destine à être un diacre ou une diaconesse dans l'Église. Deuxièmement, ça vous concerne parce que si vous êtes un membre de l'Église, ou si vous le devenez un jour, vous serez appelé à nommer des diacres, un ou plusieurs diacres, pour qu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre de votre assemblée. Et troisièmement, ça vous concerne parce que les exigences adressées par Paul aux diacres, comme aux diaconesses, concernent directement ou indirectement tous les chrétiens. Ce qui implique qu'en étant confronté à ce discours de Paul sur la respectabilité, sur la fidélité en toutes choses, ainsi de suite, en étant confronté à ce discours, on doit se poser certaines questions. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes assis dans une église et vous avez le devoir de vous poser certaines questions. Mesdames et mesdemoiselles, par exemple, quel usage faites-vous de vos paroles quand vous êtes entre vous? Savez-vous faire preuve de patience et de maîtrise de soi? Ou bien êtes-vous d'un tempérament excessif et querelleur? C'est ça que Paul est en train de pointer du doigt chez les dames. Mais chez les hommes aussi, il pointe des choses du doigt. Messieurs, à quoi ressemble l'amour et le dévouement que vous portez à votre femme? Quelle importance accordez-vous à votre rôle d'instructeur et de berger auprès de vos enfants? Mais revenons à nos diacres. Paul nous a fait comprendre que le diacre était 1. Important dans son église, 2. Solide dans sa piété, 3. Exemplaire dans sa conduite, et il reste encore un point qu'on va voir dans le dernier verset de ce passage. Et effectivement, le quatrième enseignement qu'on peut glaner de ce texte, c'est que le diacre est avantagé dans sa foi. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Paul, voyez ce qu'il dit, « Ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. » C'est difficile de savoir ce que Paul est en train de dire ici si on ne rapproche pas cette affirmation d'une autre affirmation, l'affirmation que Jésus a faite, où il a dit dans l'Évangile, « Qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et dans le passage parallèle de l'évangile de Marc, ça c'était dans l'évangile de Luc, et dans l'évangile de Marc, Jésus, il dit à ses disciples, « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Et là, c'est le même terme que celui qui est traduit par diacre ici. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, le Fils de l'homme c'est Jésus, il est venu non pour être servi, mais pour servir, littéralement pour exercer le diaconat. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus est en train de dire à ses disciples que le chemin de la gloire et de l'honneur selon Dieu, c'est le chemin du service, c'est le chemin ce que Paul appelle ici le diaconat, mais diaconat au sens large, pas au sens de seulement la fonction officielle dans l'Église, le diaconat au sens large, le service au sens large. C'est ce chemin que Jésus lui-même, le Fils éternel de Dieu, a emprunté. Ce que Paul est en train de dire, c'est que le diacre est avantagé dans sa foi, c'est-à-dire que le diacre est édifié et encouragé dans sa foi à travers l'exercice de sa fonction. Il est en train de dire que le diacre est destiné à une place de choix dans le royaume de Dieu. Vous voyez ce qu'il dit? Ils s'acquièrent un rang honorable. Je pense qu'il fait référence au statut de ses serviteurs dans le royaume de Dieu, comme Jésus y a fait référence aussi. Pourquoi? Parce que le diacre marche précisément sur les pas de Jésus-Christ lui-même, en tant que serviteur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de marcher sur les pas d'un de vos héros ou de vos modèles dans la vie. Pardonnez-moi cette illustration irrévérencieuse, mais c'est un peu le thème de la soirée. Il y a 2 ans, un jeune joueur de l'Olympique lyonnais a été transféré dans un des plus prestigieux clubs de foot du monde. Et ce jeune joueur, il est né à Lyon, il a grandi à Lyon, il a été formé à Lyon, et puis il a été joueur à l'Olympique lyonnais. Et puis un jour, il a été transféré dans un des plus grands clubs de foot du monde, le Real Madrid. Il se trouve que le héros et le modèle de ce jeune joueur avait toujours été un joueur de foot brésilien du nom de Ronaldo. Okay, si vous connaissez le foot, vous savez qui c'est. Lui-même, Ronaldo, avait joué au Real Madrid pendant 5 saisons consécutives. Vous vous rendez compte? Vous imaginez l'effet que ça a dû avoir sur ce jeune Lyonnais. Il s'agit de Karim Benzema, qui joue en équipe de France aujourd'hui. Vous imaginez l'effet que ça a eu, que ça a dû avoir sur ce jeune Lyonnais de se retrouver précisément dans la situation qu'avait connue son héros et son modèle, de porter le même maillot que lui, de jouer sur la même pelouse que lui, de prendre sa douche dans les mêmes vestiaires que lui. Bref, de marcher sur ses pas. ça a dû le remplir, imaginez, d'une grande assurance. Ça a dû le remplir, ça a dû nourrir encore plus sa passion pour le football, ça a dû le motiver à travailler encore plus ses qualités de footballeur. Bref, ça a dû l'édifier et l'encourager, ça a dû lui donner une grande assurance. Je pense que Paul est en train de dire un peu la même chose ici au sujet des diacres. Les diacres, du fait de leur fonction, marchent précisément sur les pas de leur héros et modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Du fait de leur fonction, ils marchent précisément sur les pas de Jésus-Christ. Ils croissent en assurance dans la foi parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire exactement ce que Jésus a fait en tant que serviteur. Ils sont consolés des difficultés de la vie et des difficultés de leur service, notamment parce qu'ils savent que ceux, comme dit Jésus, ceux qui se rendent humbles comme des petits enfants seront les plus grands dans le royaume des cieux. Ils savent qu'en se mettant au service d'autrui, en étant à proprement parler des serviteurs, en portant secours aux nécessiteux, ils sont en train de marcher sur les pas de Jésus, celui qui a mis de côté la gloire dont il était digne dans le ciel et qui s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes, qui s'est humilié lui-même jusqu'à mourir sur la croix, comme on l'a vu dans le texte tout à l'heure, qu'on a lu tout à l'heure. Jésus s'est mis à notre service. Jésus s'est mis au service de notre salut, alors que nous en étions totalement indignes. Vous voyez, Jésus est le diacre par excellence. Jésus est le diacre par excellence. Et d'après Paul, dans l'Épître aux Philippiens, en raison de son fidèle service, Dieu a ressuscité Jésus, il l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père, de Dieu le Père. Parce que la vie de Jésus a été une vie de service, les diacres tout particulièrement sont édifiés à travers l'exercice de leur fonction qui les fait marcher sur les pas de Jésus. Mais dans un sens plus large, tout chrétien grandit en assurance dans la foi lorsqu'il marche sur les pas de Jésus, son héros et modèle. La question que je vais vous poser avant de finir, c'est donc la suivante. Quelle est votre relation à Jésus-Christ? Quelle est votre relation à ce serviteur parfait qui a donné sa vie en rançon pour délivrer tout être humain qui se confie en lui? Est-ce que vous lui avez cédé votre existence? Est-ce que vous marchez à sa suite? Est-ce que vous accueillez au quotidien son autorité bienveillante dans votre vie? Alors, j'ai été un peu long ce soir, donc je vais conclure rapidement. Et pour conclure, je voudrais juste rappeler ce qu'on a dit en introduction. Dans le monde qui nous entoure, le rôle de serviteur est rarement un rôle désirable. C'est plutôt mal vu. Mais ce que nous, on a vu dans ce texte, c'est que pour Paul, la fonction d'ancien et la fonction de diacre sont égales en dignité. La fonction de surveillant et la fonction de serviteur sont égales en dignité et en importance dans l'Église. Les diacres ne sont pas ce qu'on appelle des sous-fifres. Voyez, ils ne jouent pas en deuxième division, les diacres. Ils sont importants dans leur Église. Ils sont censés être solides dans leur piété. Ils sont censés être exemplaires dans leur conduite. Et ceux qui exercent bien le diaconat sont avantagés dans leur foi. Comme on l'a dit au début, la fonction de diacre ne doit pas être dénigrée parce que c'est une fonction éminente, au contraire, dans l'Église. Amen.